Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. On est mercredi, les 18h, que les portes du club s'ouvrent pour une nouvelle belle émission pleine de beaux contenus. Vous allez voir, on a beaucoup de choses très étonnantes à vous proposer, avec évidemment la fine équipe Lola et Arnaud qui sont avec moi dans un instant. Je vais aussi vous présenter notre invité, mais place au sommaire de cette émission. C'est parti! On est reparti pour une nouvelle émission, on va parler beaucoup de jouets cette semaine, évidemment grâce à un magazine 10ème Planète. Avec Lola, on va s'intéresser à une bande dessinée qui vous propose de redécouvrir les classiques de l'animation japonaise. Et puis avec Arnaud, on va se replonger dans un monument de la presse écrite, le Télé 7 jours. On va se replonger dans des unes iconiques. Voilà pour cette émission avec un invité qui est avec nous en plateau et qu'on va accueillir parce qu'il a symbolisé pendant de nombreuses années un magazine qui a beaucoup fait parler de lui puisqu'il parlait justement de ses jouets dont on a beaucoup parlé grâce à Arnaud parce qu'il nous en ramène chaque semaine. Ce magazine, c'est 10ème Planète, j'en ai un petit exemplaire à côté de moi, puis il y en a un peu partout sur ce plateau grâce à notre invité Erwan Levexier qui est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir, merci de votre
Erwan,
accueil
d'être là. Tu reviens pas simplement parce qu'on avait envie de reparler de 10ème Planète, mais parce que 10ème Planète revient sur Internet.
Sous une nouvelle forme, exactement, sous forme d'une chaîne YouTube, avec une émission un peu comme la vôtre, mais pour l'instant on débute, avec des petits moyens.
Mais c'est pas grave, ça commence toujours comme ça et ça fait de belles choses. On va revenir évidemment sur l'aventure 10ème Planète avec toi, puisque je crois qu'Arnaud... il y a travaillé. Bonsoir, oui. Arnaud.
Bonsoir
et
Lola.
Bonsoir Lola. Bonsoir. Lola, évidemment, qui va nous parler de littérature tout à l'heure. Et Arnaud, le magnétique.
Ah oui.
Le magnifique.
Oui, voilà, allons-y. Voilà,
on les fait tous.
Ouais.
Comment allez-vous, les copains?
Ça va et toi?
Ça va super, merci.
On est bien? On est pas mal, là.
Un très joli plateau, coloré, ouais. Bien décoré, comme on aime.
Et on va se faire plaisir. Dans un instant, avec Erwan, on va revenir sur l'aventure 10ème Planète. Il y a plein de choses. Ça parle aussi bien de Ulysse 31, d'Albator, du Capitaine Flamme, comme de Dragon Ball qui fête ses 40 ans, ou encore de Masque. Je vois ça ici ou là. Bref, on a plein de questions à te poser, Erwan. J'espère que tu es prêt à y répondre.
Totalement prêt.
Tu parleras qu'en présence de ton avocat. Eh bien, on y revient dans un instant. Auparavant, évidemment, il y a quelques jours, on vient de se terminer, on avait un petit peu amorcé la semaine dernière, on n'avait pas eu le temps de vraiment en parler, c'est achevé la tournée triomphale dans toute la France de Dorothée qui a fait son grand retour sur scène. Évidemment, quand on parle de nostalgie et de culture rétro dans cette émission, on ne pouvait pas ne pas en parler, et on espère d'ailleurs... si la fin de l'année, qu'on puisse enfin recevoir Dame Dorothée dans cette émission.
On n'en dit pas plus.
On n'en dit pas plus.
On en a déjà trop dit.
Mais elle était sur scène, elle s'est produite pour deux concerts, c'était au Palais des Congrès, et elle a fait plusieurs dates en France qui se sont passées quasiment à guichet fermé. Les équipes de production ont fait un petit teaser pour celles et ceux qui auraient raté ce spectacle. Voici à quoi ça ressemblait.
Dites-moi, où est passé mon cœur, que vous appelle au bureau du bonheur. Car je sors un instant du ministère des pleurs. Dites-moi,
ne quittez pas le bureau du bonheur.
Où il est, nous recherchons votre petit cœur. Dites-moi,
toutes les données dans l'ordinateur.
S'il vous plaît,
soit programmé.
Waouh, 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 waouh,
ne bougez pas, j'arrive. L'ambiance est explosive. Je passe à l'offensive. Et tu m'as même aussi vu. J'ai cours, j'ai vol, j'ai rock and roll.
C'est un tremblement de terre, un typhon sur la mer, un grand coup de tonnerre. Tu viens tout renverser comme jamais.
Ah, c'est... Il y avait le feu, hein. Ouais. Ça fait plaisir, les images sont chouettes.
Ouais.
Il y avait le feu, alors je sais pas si on m'aperçoit, mais il vous y avait un excité dans la salle là, qui dansait comme tous les coins, qui chantait, qui connaissait tout. C'était vraiment un spectacle vraiment très réussi. À la base, alors je salue d'ailleurs toutes les équipes artistiques qui étaient à la manette, les équipes évidemment de JLA, mais surtout d'Alexandre Sorin qui a apporté sa patte à ce nouveau spectacle. Les équipes avec le directeur artistique Vincent Godel et Axel Danlos qui ont vraiment apporté un spectacle en fait à la fois nostalgique, et j'adore cette photo qui est là, qu'on voit,
joli, ouais.
De Dorothée de dos. Je l'aime beaucoup et qui apportait cette vague de nostalgie et en même temps un concert un peu moderne dont elle avait besoin, Dorothée, pour pouvoir en revenir. Elle avait fait que quelques dates en province. Il y avait Lyon, Bordeaux, Nantes, je crois,
ouais,
et,
Nantes,
Bruxelles.
La dernière, et Bruxelles. Ouais.
Et Bruxelles. Et ça a été un carton plein dans toutes les dates et je pense que même elle ne s'y attendait pas. Et c'est vrai que ce qui était très drôle, c'est qu'à force qu'on voit ce qui se passe dans les coulisses, depuis les coulisses sur scène, on découvrait quelqu'un qui se chauffait de plus en plus et semblait de plus en plus motivé et content d'être sur scène. Et c'est vrai qu'il y a un mélange de chansons un peu nostalgiques, rétro, et puis des choses qu'on n'avait pas entendues sur scène, que moi j'avais jamais entendues sur scène.
C'est ce qu'on lui avait un peu reproché, hein. Si reproché c'est un peu fort, mais l'émission par exemple de Nikos Aliagas, Merci Dorothée, était axée essentiellement sur TF1, la période TF1, et forcément toute la partie Récréa 2 qui est la naissance du mythe manquait, et ça fait appel donc à la prime enfance de beaucoup de personnes. Et
ça,
donc
c'est
là, voilà.
Sur scène, rouge et jaune à petit poids, évidemment.
Absolument,
on reconnaît. Bah, ça c'est des clichés que j'ai pu prendre sur scène, et c'est vrai que la scène était chouette, et en même temps elle avait pas ce côté un peu nostalgique,
absolument,
rétro, qui aurait été un peu honteux. Ça bouge. C'est un vrai concert nostalgique. Ils ont édité un programme. Je remercie parce que moi j'avais pas pu l'avoir à Paris. C'est à quelqu'un qui me l'a procuré. Je l'en remercie. Donc parce que le merchandising était pris d'assaut. C'est-à-dire qu'il y avait des queues pendant 25 minutes à l'entracte et avant et après. Enfin c'était hallucinant. Et ils ont édité un programme. Alors ce qui est génial, je sais pas si vous avez des fois dans des concerts, les programmes, il y a rien de pire parce qu'en fait vous avez deux pages de programme et 50 pages de publicité.
De pub, ouais.
Là c'est que des pages de programme et en fait c'est que des belles photos qui ont été cherchées. Alors je vous montre par exemple, voilà, avec quasiment c'est un mini livre sur Dorothée, ouais, qui a été fait avec plein de photos d'archives, un beau poster au milieu, voilà, avec elle qui est là. Et je pense, puisqu'on l'avait reçue dans cette émission, notre ami Zémial, qui a son dessin de Dorothée qui est à l'intérieur, puisque Dorothée a signé la préface de son prochain Shonen Avengers qui sortira à la fin de l'année. Voilà. Donc ce programme qui est sorti, et donc vous aviez aussi un vinyle qu'on m'a ramené aussi, et je remercie, le vinyle exprès édité pour la tournée de Dorothée. Voilà, édition limitée, pochette exclusive tournée Dorothée Tour, et avec tous les singles sortis depuis 1980. Voilà, le vinyle est là, et j'essaie de voir si je peux vous l'ouvrir pour vous le montrer. À l'intérieur, voilà,
avec donc Arnaud,
avec donc Dorothée à l'intérieur, voilà, et avec un concert qui s'est vraiment super bien passé. On le voit avec beaucoup de couleurs, beaucoup de titres qu'on voit derrière vous. Là, je sais, ça devait être une des nouvelles chansons. Ça va être la chanson Se retrouver, puisqu'elle a interprété évidemment trois nouvelles chansons sur scène. J'ai dans mes souvenirs Se retrouver et puis Slow Rock, qui est une nouvelle chanson aussi de Dorothée. Et petite info, lors du dernier concert qui était à Nantes, j'embrasse d'ailleurs mon copain Nicolas qui était, voilà, je le dis à chaque émission, mais on se suit beaucoup, journaliste, pour ici dans l'ouest de la France, et il y a eu une captation pour un DVD. Voilà, donc le spectacle devrait sortir en DVD d'ici la deuxième partie de l'année. Voilà.
On remercie aussi Thomas Brio qui nous avait envoyé des photos.
Exactement, j'allais y venir, effectivement.
De Lyon.
Exactement, et on a pu suivre et être présent finalement, même dans les villes dans lesquelles on n'était pas.
Absolument.
Et voilà.
Elle est jolie cette photo.
Elle est jolie cette photo.
Ouais. Ouais, et puis à Bruxelles, elle a pu rencontrer aussi toute la troupe de Benny B avec DJ Daddy K et puis le chanteur aussi, le danseur. Et voilà, c'était quand même perfect. Il s'appelle, voilà, chercher son nom.
Et il y avait des guests dans les villes
aussi.
Il
y avait des guests aussi. Voilà, c'est quand même rigolo de voir tous ces gens qui, après tant d'années, se retrouvent et sont heureux de se retrouver.
Ouais. Notamment à Bruxelles. Non, pas à Bruxelles. Je sais plus dans quelle ville. Bordeaux. Bordeaux, c'était Chimène Badi qui est venue chanter pour faire une chanson. Il y a eu Alizé. Enfin voilà. Et on ne croit pas comme si on savait qui était sur la scène de Nantes, s'il y en a eu une, puisque à l'heure où on enregistre, le concert n'a pas eu lieu encore. Donc voilà, mais on voulait souligner ce retour. Et puis voilà, encore une fois, c'est un vrai beau concert qui a été fait. Et je pense que ça lui a redonné des ailes pour revenir. Et à mon avis, elle le dit à un moment donné dans une chanson, vous avez eu une place importante dans ma vie, on s'est créé des souvenirs ensemble, et elle termine en disant on va s'en créer d'autres. Donc à mon avis, ce n'est que le début d'une grande aventure. Voilà, Dorothée sur scène, Se retrouver, et en attendant qu'on la retrouve ici. C'est capillo tracté. Allez, on en vient à notre invité Erwan qui est avec nous. Le magazine 10e Planète qui fait son grand retour aussi sur une chaîne YouTube. Avant qu'on en découvre un petit extrait que tu nous as confié, mon cher Erwan, c'était quoi 10e Planète pour celles et ceux qui ne connaissent pas?
Alors, Dixième Planète, c'était le premier et seul unique magazine en langue française, francophone, entièrement dédié aux produits dérivés. Alors, quand je dis produits dérivés, c'est tout ce qui est objet merchandising tiré des séries télé, jeux vidéo, bandes dessinées, films, etc. Donc, tout ce qui est œuvre de fiction. Donc, c'est très, très large.
Et, ce qui fait... Il y a même du parc d'attractions. Là, j'ai mon œil qui a été attiré sur le retour à Mirapolis.
Oui, exactement.
Oh là là, mon Dieu.
Oui, on avait fait un sujet sur Mirapolis qui, hélas, avait fermé. Mais le pigiste qui avait travaillé sur le sujet avait des photos d'époque qui avaient permis comme ça de se replonger dans cette époque.
Il a existé quand ce magazine Dixième Planète ?
Alors, il a été créé en octobre, enfin le premier numéro est sorti en octobre 1999, voilà. Et il a cessé de paraître en 2008.
Ah oui,
donc il a eu neuf années merveilleuses où on a pu explorer énormément de domaines, d'univers, puisque, comme tu disais tout à l'heure, on parlait de Capitaine Flamme, Ulysse 31, Masque, mais également, on a commencé avec Star Wars, évidemment, en octobre 99, c'était la sortie au cinéma de l'épisode 1, le grand retour de Star Wars au cinéma, et donc là, on avait fait... on avait déroulé le tapis rouge, quoi. Voilà, on avait fait, je crois, 60 pages sur 100, c'était un 100 pages, entièrement dédié à Star Wars, avec tout le merchandising qui pouvait exister, et on avait de quoi raconter, et on a continué à raconter Star Wars tout au long des 51 numéros qui ont pu paraître comme cela, plus 11 hors-série.
Voilà. C'est quand même considérable.
Considérable.
Nous, on a la chance maintenant d'en profiter. Enfin, la chance, je ne sais pas. À partir de quand tu as eu le bonheur de travailler avec Arnaud Magnier ?
Eh bien, déjà à l'époque, voilà. Arnaud avait rejoint l'équipe parce qu'il y avait beaucoup de collaborateurs au magazine. Parce que pour pouvoir traiter de tant de sujets, il faut quand même des personnes qui connaissent chacun des domaines bien spécifiques. Et Arnaud a collaboré, je ne sais plus à partir de quel numéro tu as...
Je sais qu'on en a fait une vingtaine à peu près de
ouais,
dixième.
Ouais, des gros dossiers.
Des gros dossiers parce que Erwan nous a donné la chance avec l'équipe dans laquelle je faisais partie à l'époque qui s'appelait Redis-moi tout et il nous a donné la chance de prendre de plus en plus de place et puis il y en a eu une bonne vingtaine on a
Là j'avais apporté justement quelques exemplaires Capitaine Flamme Albator
la bataille des planètes deux fois
deux temps il y avait la nostalgie version, l'ancienne version et le moderne parce qu'à l'époque il y avait des ressorties qui maintenant sont des vintage
c'est ça
forcément
Voilà, et les photos, reprendre. C'était vos collections perso, c'était quoi ?
Alors, les photos, ça venait de plusieurs sources. Alors déjà, les photos, la plupart, la grande partie des photos, on va dire 90% des photos étaient prises en studio par nous-mêmes, partie par moi. Et donc, les objets qui étaient présentés venaient en grande partie des collections des collaborateurs. Donc, de ton côté, quand il y avait un dossier, comme on disait, sur Albator, Capitaine Flamme, etc., c'est toi qui fournissais les pièces. Hein.
C'était souvent mon domaine, les clichés un peu dessinés pour garçons,
fermons
les guillemets. Et bien sûr, on prenait un pied pas possible. Et puis, on avait carte blanche, je tiens à souligner, c'est quand même très, très rare. Et puis, 100 pages tous les deux mois, c'était quand même une sacrée course aussi. On a même pu faire des interviews, dans le dernier dossier, notamment de Sankukai.
Oui.
J'avais proposé d'aller. Alors j'ai essayé de joindre Hiroyuki Sanada, le Hayato, dans Sankukai, et j'ai failli y arriver. J'ai été bloqué. Il était à Londres à l'époque et il jouait du Shakespeare et ça s'est pas fait. Sinon ça se faisait. Mais j'avais eu la chance d'aller voir Francis Lax qui faisait toutes les voix.
Exactement.
Et donc on a fait une superbe interview peu de temps avant qu'il nous quitte.
Il faut expliquer aux gens qui nous regardent, cette grande époque, elle correspondait aussi pour les gens qui aimaient la pop culture au fait que même dans Paris, on retrouvait beaucoup de boutiques.
Exactement.
Où il y avait du merchandising, Street Burger, moi je me souviens de cette boutique qui n'était pas très loin de République, dans une petite rue, on allait chercher à la fois les magazines qui venaient des États-Unis, les cassettes vidéo en import, à l'époque il n'y avait pas de moyen de les voir autrement, et puis tout le merchandising, les jouets, les figurines, tout ça quoi.
Oui, c'est vrai que maintenant avec Internet, on a tout à portée de main, mais à l'époque il fallait vraiment chercher pour retrouver des pièces de notre passion à chacun. Et il y avait effectivement à Paris énormément de boutiques qui s'étaient développées.
Enfin, comme l'Uberlu, par exemple.
Oui, partout en France, mais principalement à Paris. Et je m'étais laissé dire qu'il y avait plus de boutiques spécialisées dans ce domaine qu'à Manhattan à ce moment-là. Donc ça, c'était vraiment, ça avait vraiment explosé.
Il en reste des boutiques comme ça à Paris.
Bien sûr. Il y a le Luberlu. Il faudra qu'on te ramène un jour. Ouais, c'est hallucinant parce que c'est une boutique dans laquelle, là, pour le coup, ils exposent essentiellement.
C'est un musée.
C'est un vrai musée. Et on se rend compte, en regardant le tarif des jouets, de ce que ça vaut aujourd'hui. Et ça vaut une fortune absolument considérable. Et cette boutique, Luberlu, je le dis parce que, à l'heure où vous allez découvrir cette série, vous allez la voir, puisque la semaine prochaine passera sur TF1 la saison 2 de Bref. Et dans la saison 2 de Bref, eh ben, le personnage de Ken Kojandi se fait embaucher chez Luberlu dans cette boutique rétro à Paris. Donc si vous les regardez, vous penserez à nous en voyant cet épisode. On va regarder à quoi ressemble aujourd'hui 10e planète, parce que tu vas nous en... On va en parler dans un instant, mais on a un petit extrait quand même que tu nous as gentiment confié.
Oui, une bande-annonce, enfin un best-of en
quelque
sorte.
Alors, j'ai un peu réduit, hein, vous m'en voulez pas, parce que ça a duré 8 minutes, mais...
Oui, il vous a envoyé une version longue.
Il m'a envoyé une version longue, mais j'ai contracté deux petits extraits. En voici un premier, regardez.
Très très longtemps. Tu étais déjà dans le métier, si je puis dire, bien avant la naissance de 10e planète.
J'ai eu la chance d'atterrir la télévision et dans le service décoration, où le service décoration avait créé...
De TF1,
département maquette, et on avait créé justement, mon intention, le département maquette de TF1 pour fabriquer les modèles pour Michel Chevalier, qui était le journaliste scientifique de l'époque, qui a été renommé justement par l'usage de ces miniatures, enfin en tout cas de ces maquettes, entre guillemets, qu'il présentait à la télévision.
Et de ce fait, tu as travaillé pour le Club Science de l'émission du Club Dorothée.
Oui, effectivement, parce que là, il y avait toute une jolie petite aventure. Il y avait Dorothée qui présentait son émission à l'époque. Et puis, entre Dorothée et Michel, il y avait eu un projet. Ça s'est appelé Club Science.
Club Science. Club Science. On découvrira la suite, évidemment, parce que le but, ce n'est pas de tout vous spoiler. Et tout est disponible, évidemment, en ligne. On me verra un deuxième extrait dans un instant.
Pardon, là, on vient de voir Jean-Marc.
Oui, Jean-Marc Deschamps, qui était un pilier du magazine. Ouais. Pour situer, Jean-Marc Deschamps est un spécialiste d'effets spéciaux et de modèles réduits, a travaillé pour TF1, comme il expliquait, pour Michel Chevalier, et donc a travaillé pour le Club Science. Et à l'époque, je le connaissais déjà, et j'ai eu le privilège de l'accompagner sur le plateau du Club Science et de rencontrer Dorothée à l'époque.
Qui était une émission géniale, un petit module pour expliquer la science à la télévision, c'était chouette.
Exactement, et Jean-Marc, je disais, donc, est un pilier du magazine, parce que là, il était habillé avec une blouse blanche, parce qu'il incarnait un personnage un peu fou, un savant fou, dans le magazine, qui était le professeur Kelp, et qui donnait des conseils pour réparer ses produits dérivés, ses objets de collection. Et donc on avait des tutos dans chaque numéro avec des photos détaillées pour expliquer comment faire. Et ensuite il a même sorti un livre. Et pour la petite histoire, la clinique du professeur Kelp existe toujours, puisqu'on peut faire appel à lui aujourd'hui pour réparer ses pièces de collection qui valent effectivement...
J'ai déjà fait appel à lui, bien évidemment, Jean-Marc, on se connaît toujours très bien.
Ça pourrait être chouette d'aller voir, d'aller faire un petit tour.
Moi j'ai un souvenir incroyable avec Jean-Marc. Marc, au-delà de tout ce qu'on faisait dans la rédaction, mais un jour il m'appelle, il me dit écoute Arnaud, faut que tu passes à la maison. Il me dit j'ai un truc à te montrer, je n'ai pas le droit d'en parler, mais bon, il y a prescription, allez, je balance. Donc je me dis bon, allez, j'y vais quand même, parce que là, j'arrive chez lui et en fait il est en train de restaurer la maquette du Sankukai qu'on voit.
Voilà.
Alors attendez, je vais essayer de trouver la photo pour que tu t'expliques.
Qui faisait donc un mètre de large, parce qu'on la voit dans la série télé.
En face de Erwan, elle est là.
Oh là là,
on voit la taille du vrai Sankukai, en fait, qui atterrit.
Et la taille de Jean-Marc.
C'est la taille de Jean-Marc.
J'ai fait voir, je vais regarder. Oui. Ça, je vais pouvoir vous montrer pendant qu'on parle. Vas-y, je t'en prie, continue.
Et j'ai touché le Sankukai. Ça fait bizarre comme phrase, mais je tiens à la préciser.
Sankukai.
Et Jean-Marc, mon fils n'était pas très grand et je l'avais amené. Et il y a des photos où il met le bras dans le réacteur excellent. Du Sankukai dans mes bras.
Mais ce qui est important de le dire, et dans tout ce qu'on dit là, c'est que ça paraît anecdotique. Ce sont des jouets d'enfants de dessins animés. C'est un vrai trésor pour celles et ceux qui les ont en bon état aujourd'hui.
Oui, ce sont des souvenirs en 3D.
Oui.
Voilà.
C'est un trésor, pardon, c'était pas le sens de ma question. Ah. C'est un trésor au point de vue financier aussi.
Ah oui, j'aime pas trop aborder ce côté-là.
Mais c'est quand même important de le dire.
Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Mais souvent, encore aujourd'hui, je suis contacté par des collectionneurs qui me demandent d'estimer leurs pièces ou choses comme ça. les estimer dans le sens, voir si c'est une pièce d'origine, d'accord, mais de donner une somme, ça, c'est pas du tout ma tasse de thé. Moi, je suis journaliste, hein, je suis pas commerçant.
Non, mais c'est important,
mais
c'est important quand même de préciser que ce qui, hier, valait quasiment trois fois rien quand on l'achetait dans les magasins pour se faire plaisir, avec le temps, a pris de la valeur au tel point que, parfois, dans l'émission de France Télévisions, on voit des gens qui viennent présenter leurs jouets, mais il y a même des magazines dédiés aux ventes aux enchères dans lesquels on a des spéciales au niveau des jouets, parce que parfois des gens se retrouvent à devoir se déposséder. Non, tu fais la moue.
Non, je fais la moue parce que parfois il y a des rapages. Bah, je pensais justement à la Gazette de Drouot qui avait présenté en couve des jouets Star Wars, et il y avait une grosse erreur puisqu'il présentait un R2-D2 soi-disant de 78 de la marque Kenner, et en fait c'était tout simplement une bouteille de bain
C'est pas pareil, oui.
De l'année 2005.
Ah oui.
Mais c'était quand même estimé comme un jouet de 78, donc il faut quand même faire attention avec les cotes. Il y a parfois un peu des choses exagérées, et il y a beaucoup de rééditions aussi de jouets et d'objets de cette époque, et il y a des personnes peu scrupuleuses qui ont tendance à les revendre comme les jouets d'origine.
Mais ça prend de la valeur parce qu'il y a le temps qui passe, ou ça prend de la valeur parce qu'on perd cette habitude du merchandising autour des produits? Parce qu'en fait aujourd'hui il y a quand même moins... Je veux dire, sur des produits, il y a moins de choses. Par exemple, sur des dessins animés, il y en a quand même. Ou sur des choses qu'on connaît. Mais moi, par exemple, de ma génération, il y a beaucoup moins de merchandising que ce qu'il y avait à l'époque, autour de tout ce qu'on voit aujourd'hui.
Et j'ai l'impression que... Il y en a beaucoup maintenant. Ça se développe même énormément.
Peut-être que... Est-ce que les collectionneurs continuent? Enfin, il y a des collectionneurs des nouvelles générations qui...
Ah oui, je pense, oui, suis certain.
Ok.
Oui.
Alors je me trompe.
C'est un ressenti qui est peut-être pas totalement faux, dans le sens où il est biaisé par le fait qu'on les voit peut-être moins exposés.
Oui, c'est ça, j'ai l'impression.
En tout cas, en dehors d'un cercle d'initiés, peut-être.
Non, parce que je pense qu'il y a de plus en plus de rendez-vous, de salons,
au contraire,
où justement les collectionneurs exposent leurs pièces.
Je trouve ça génial de savoir.
Non, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque... j'allais dire quand on était gamin, mais bon, ça dépend de à qui on s'adresse, évidemment. Hein. Bon, je vais m'adresser à Arnaud.
Ouais, bon, okay.
Bon, d'accord.
Malheureusement, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
C'était pas considéré comme des pièces de collection, c'était des jouets qui étaient destinés aux enfants, pour la plupart, parce que faut pas non plus tout réduire aux jouets, mais c'est une grande partie, puisque c'était souvent des dessins animés pour les enfants, donc c'était destiné aux enfants. Et c'était des jouets qu'on trouvait dans les magasins de jouets, parfois déjà un certain prix pour l'époque, mais c'était considéré comme, bon, bah, on joue avec, on ouvre la boîte, on la déchire, et puis ça reste dans un coin, on le donne au plus grand, ou après, on le balance à la poubelle. C'était vraiment un jouet. Et donc, avec le temps, ça a pris de la valeur, parce que beaucoup ont été abîmés, ont été jetés. Alors, les retrouver en boîte neuf, ça, c'est encore plus difficile. Donc, d'où l'intérêt, enfin, d'où la valeur, l'augmentation de valeur de ces pièces. Mais aujourd'hui, il y a tout un merchandising pour les adultes devenus, enfin, les enfants devenus adultes, qui ont un pouvoir d'achat supérieur. Et là, c'est passé à une strate supérieure avec des statuettes qui valent plusieurs centaines d'euros, neuves. Dès la sortie, des séries limitées.
On voit dans des magasins
aussi,
comme Album, par exemple, à Paris.
Voilà, exactement. Mmh. Exactement. Et qui ne font que importer ce qui sort aux États-Unis, au Japon, hein, c'est, la plupart du temps. Il y a aussi des productions françaises. Mais ça existait déjà avec la BD franco-belge par le passé, avec notamment Tintin, principalement, ou Black et Mortimer, ou même Astérix.
Mais par exemple, pour compléter la question de Lola, parce que finalement, il y a des gens qui vont s'y reconnaître aussi, parce qu'elle n'est pas dénuée de sens non plus. Ah non. Par rapport à la collection d'aujourd'hui, je pense Marvel, Star Wars et tout ça, c'est que ça continue à
totalement
être diffusé. Mais la plupart des choses qu'on voit ici sont liées à une sortie à un temps donné, et ces jouets, à part aujourd'hui, on voit Mask, par exemple, qui commence un peu à ressortir, ou des Maîtres de l'Univers, mais il y a très peu de collections où c'est réédité aujourd'hui avec des nouvelles figurines.
Si, mais c'est vraiment en série limitée pour les collectionneurs, mais c'est pas encore courant, mais justement, l'exemple de Mask est évident. Une société américaine a repris les droits, parce que c'était la grosse société Kenner, enfin, quand je dis grosse, c'était...
On a parlé ici avec...
Kenner avait sorti précédemment les jouets Star Wars, voilà, puis L'Homme qui valait 3 milliards avant Star Wars même, et ils avaient sorti donc les jouets Mask dans les années 80, et une société autre, indépendante, a racheté les droits pour faire des nouveaux jouets, une réédition. Ils sortent par vague de 4, donc ils ont sorti 4 premiers véhicules, ils en sortent 4 autres, en reprenant les mêmes critères, mais en les améliorant, parce qu'ils savent que le public est adulte, et beaucoup plus demandeur et beaucoup plus
exigeant.
Donc, exigeant, merci.
C'est le public qui a changé, enfin, de la collection qui n'était pas une collection en tant que telle.
Le public a vieilli, tout simplement.
Il a vieilli, ouais.
Le pouvoir d'achat a augmenté. Mmh. Et donc, comme il a vieilli, bah, ces reproductions de jouets ne s'adressent plus aux enfants.
Okay.
D'ailleurs, au niveau des normes, ça passerait pas.
Mmh. Il voilà. faut juste les avoir de manière beaucoup plus solide.
Pour compléter ce que dit Erwan aussi, il y a une notion de collection qu'on peut trouver partout. C'est-à-dire que certains vont collectionner des emballages de papier de sucre, enfin des emballages de sucre, des pots de yaourt ou des
boîtes à capsules de champagne.
Des capsules de champagne.
Chips avec les chips
bretts. Absolument, oui. Et puis on le voit aussi là pour les télés 7 jours. Il y a toujours forcément quelque chose qui va te ramener à un souvenir que tu as vécu certainement enfant et donc forcément plus dans l'affect, dans le cœur et dans la mémoire, qui fait qu'on peut collectionner autant de paires de chaussettes que de tire-bouchons.
Exactement.
J'ai encore une question à vous poser à tous les deux dans un instant. On va avoir un autre extrait de Dixième Planète en ligne, évidemment, pour comprendre ce que c'est. Évidemment, on vous mettra toutes les infos hein, concernant cette chaîne. Mais voici un autre extrait de ce best-of que nous ont fourni gentiment les équipes de Dixième Planète. Regarde.
Les gars qui vont venir nous présenter du rétro gaming. Donc, on a des bornes en accès libre. Pour jouer au premier jeu de Pokémon.
Il y a des bornes jouables là.
C'est vraiment. Ça, voilà.
D'accord,
on va
c'est pas que d'exposition. Alors, on peut aussi jouer.
Il y a de l'expo, il y a du jeu, il y a une bourse de jouets aussi. On a 25 mètres de bourse de jouets. On va retrouver de tout. Du petit jouet Billy's à 1 euro, à des Goldorak un petit peu plus cher. Il y a vraiment de tout. Donc voilà, c'est quelque chose de très ouvert, très large. Pour retomber en enfance. On a des invités aussi, des auteurs. Voilà, on a Arnaud Magnier qui vient d'écrire un livre sur l'émission Croque-Vacances.
Croque-Vacances, je t'en avais parlé du livre. Et Arnaud qui faisait partie de l'association Redis-moi tout, qui a énormément collaboré à beaucoup de dossiers de Dixième Planète. Donc Arnaud était un ancien membre de l'équipe rédactionnelle.
On est tous des passionnés,
voilà.
Et c'est une belle équipe qu'on aime.
Alexandre parle auto français.
J'ai bien
Chers
fait de venir.
Amis, j'ai choisi l'extrait. Je n'ai pas fait exprès. Vous pensez bien, sinon je n'aurais pas pris celui-là.
Merci Alexandre.
Pour lui faire de la promo. Je vous jure que ce n'était pas fait exprès. Personne ne me croira, mais je vous jure que ce n'était pas fait exprès. Ces jouets-là, il faut quand même l'expliquer pour celles et ceux qui, à partir de la nouvelle génération dont fait partie Lola, parfois, ils étaient du merchandising, c'est-à-dire pour exploiter des programmes qui passaient à la télévision.
Oui.
Parfois même, ils étaient source de financement de ces programmes, parfois en amont même. Je pense à Jace, par exemple, ou à des dessins animés comme ça. C'est ça aussi qui était... C'était un bon complément, en fait, pour les studios, pour rentabiliser la production de dessins animés.
Oui, dans les années 80, et même un petit peu avant, les choses ont basculé, parce qu'avant, on sortait, après coup, des objets pour les enfants, un t-shirt, un porte-clés, un petit jouet, parce que le dessin animé plaisait. Et puis, progressivement, on a intégré le merchandising, les droits dérivés au moment de la production. Et on peut dire que historiquement, c'est George Lucas qui a lancé ça avec Star Wars. Et donc, il y a eu comme ça des évolutions. Et ça a commencé notamment avec les Maîtres de l'Univers.
Ouais, bien sûr.
Voilà. Où, pour accompagner une gamme de jouets, Mattel a cherché un producteur de dessin animé pour monter un dessin animé et ils ont imaginé une histoire qui n'était pas vraiment celle d'origine autour de leurs jouets pour faire un peu du matraquage et les gamins qui voyaient ça à la télé, ils voulaient tout de suite Musclor, Skeletor et
puis il faut dire qu'il y avait des petites BD qui accompagnaient les jouets aussi.
Voilà, ça c'était la première étape et d'ailleurs si on compare les petits livrets avec le dessin animé, il y a beaucoup de différences. Et d'ailleurs, les auteurs des livrets n'étaient pas d'accord et contents du dessin animé.
On en profite notre ami Jerry
Chaman,
Mortal G, qui fait une chaîne sur YouTube, lui aussi, où il peut bien avoir les collections. Voilà. Et je me dis qu'il va falloir, Jerry, prépare-toi, je pense qu'on va venir un jour te faire un petit sujet, parce que présenter les collections et les voir aussi, ça peut être sympa pour cette émission.
Très bien.
Et Jerry, entre ses grosses collections et sa voiture K2000, il y a des choses comme ça qu'il faut qu'on discute. On va y aller tous les trois, on va aller se balader là-bas, vous allez voir, ce sera très très chouette. Pourquoi avoir eu envie de refaire renaître Dixième Planète sur le web?
Alors, c'est Yves Bourin, que l'on voit dans les extraits, qui co-présente l'émission avec moi, qui est un réalisateur audiovisuel. Et il y a 2 ans, il avait fait un documentaire de 40 minutes sur les 25 ans de Dixième Planète. Et il nous avait interviewé, Jean-Marc et moi, Il avait fait un très bon boulot. Il avait eu la courtoisie de me présenter les premières versions pour voir si c'était correct. Il m'a demandé des photos d'archives, des extraits d'archives de passages télé de l'époque et tout ça. Et on a sympathisé et il m'a dit mais ça serait quand même bien que ça puisse revenir sous forme de vidéo sur YouTube. C'est quelque chose auquel j'avais pensé il y a très très longtemps parce que déjà du temps de Dixième Planète, j'avais commencé à tester un petit peu. Bon, il n'y avait pas YouTube, c'était pas très pratique. Mmh. C'était encore en téléchargement, ouais. En très basse définition. Je me souviens d'ailleurs d'une vidéo où on voit Casimir porte champéré et était juste à côté d'ailleurs.
Avec des cheveux.
Bah oui, certainement.
J'ai failli le dire, mais je me suis retenu.
Tu comptais sur moi.
Et donc Yves m'a proposé ça. Je fais ouais, bon, je sais pas. Est-ce que le public va suivre? Est-ce que. Voilà, moi je continue ma vie de journaliste sur d'autres choses, bien que j'ai développé des chaînes YouTube, mais bon, je me suis dit pourquoi pas. Et à force, il a réussi à me convaincre et on a fait ce pilote un petit peu à l'arrache. D'ailleurs, ça sent au niveau du son sur le plateau. On a eu des pépins de micro qui ont été réparés depuis à la deuxième émission qui va bientôt sortir là. Ouais. Et le son est bien meilleur en plateau. Et d'ailleurs, on aura beaucoup plus de reportages, dont une interview d'un certain Arnaud, qui a sorti un super livre.
Tu te places
partout, c'est pas possible.
Bah écoutez, oui. Est-ce qu'on a parlé de moi récemment?
Oui, bien sûr, ça en parle de toi tout le temps. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est vraiment génial quand on voit le Dixième Planète, et puis quand je replonge dans ce bouquin aussi qui était signé Sébastien Carretti, Vincent Dubost, Jouet 70-80, voilà, qui était sorti il y a quelques années, c'est que je me rends compte que c'est pas la même saveur de voir même les jouets en photo comme ça, plutôt que de voir des espèces de flyers posés et tout. Et ça donne quelque chose de très particulier de voir les photos des jouets un peu en relief, etc. Je trouve que ça donne un cachet un peu particulier où on a l'impression d'avoir les jouets posés sur
oui,
la table, quoi.
Oui, oui, oui. Et c'est pour ça qu'il y avait un énorme travail iconographique et on détourait la plupart des photos dans le magazine. Et c'était un travail de dingue, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'IA. Hop, on appuie sur un bouton et ça y est, c'est fini. Regardez, il fallait le faire à la mano.
Touriste,
ah, ça, c'est oui, c'est le livre. Mais c'est vrai que c'était le même taf. Et c'était un travail de dingue. Et on parlait des maîtres de l'univers tout à l'heure.
Ah, par exemple, là, les chevaliers du Zodiaque.
Ouais. Bah voilà, oui, par exemple. Ouais, ouais. Et les maîtres de l'univers, j'avais photographié l'intégralité de toutes les figurines une à une. Et il a fallu les détourer une à une.
Oh là là.
Je suis allé quoi?
Ah ouais. Ah non, ça c'est pas moi là. C'était Magali qui était notre graphiste, qui a eu un beaucoup beaucoup de patience.
Je me dis qu'il va falloir on va en discuter, mais il va falloir qu'il revienne ce petit Erwan parce que
oui,
on a encore beaucoup de choses à dire et à faire avec lui pour parler vraiment plus en détail des jouets. Là, on voulait vraiment parler de Dixième Planète, mais je pense qu'on va te faire revenir avec parler de Dixième Planète. Tu voulais dire quelque chose?
Bah oui, puis on ne peut pas ne pas parler d'Yvan Wes-Laurence qui était
voilà.
Un des piliers aussi de Dixième Planète qui avait une rubrique notamment sur les faux. Et
par
voilà.
exemple, là, c'est le hors-série signé de Yvan Wes-Laurence, entièrement dédié au robot japonais.
Absolument.
Ah, génial.
Je pleure.
Et puis voilà, Sommité. Créateur d'Animeland, enfin, Sommité, Yvan Wes-Laurence, qu'on embrasse, bien évidemment, un auteur.
Regardez les Robotech, Macross, voilà, avec les dessins. Tout, c'est... Oh.
Ouais, parce qu'il faut dire qu'il y avait une vingtaine de personnes qui collaboraient de manière non régulière au magazine.
Les Bioman, voilà, c'est parfait.
Voilà, ouais. Et donc, la plupart venaient des collections d'Yvan, là, pour ce hors-série, par exemple. Ouais.
Dixième Planète fait son grand retour en ligne, et j'espère que vous y prendrez plaisir. Et puis, Erwan reviendra et va venir nous voir, parce que, comme on parle souvent de jouets ici, ce sera évidemment intéressant de te réentendre.
Volontiers.
J'étais ravi de replonger parce que j'étais vraiment j'ai dû le voir dans les librairies évidemment
c'est
parce que
obligé.
C'est iconique mais de ne pas m'y être plus intéressé que ça, mon Dieu, ce que je le regrette après coup parce que c'est un vrai beau travail qui est fait avec ce magazine.
Il y avait même la petite mascotte Miss Deplane qui
Il y a tellement de choses à raconter,
il y a plein de trucs à dire
et Miss Deplane qui va revenir
qui
aussi
va revenir.
Parce qu'il va y avoir une réédition de Titan, le magazine qui était édité par les éditions Lug qui présenter les super-héros Marvel en langue française. Et il va y avoir une version Titan et Miss Deplane sera dedans. Donc notre mascotte maintenant vit sa vie de héroïne
génial.
De bande dessinée.
Tu restes avec nous, Erwan.
Volontiers,
on va continuer à parler évidemment de pop culture avec nos amis, de magazines aussi. Mais avec toi, Lola, on va s'intéresser à un grand nom de l'animation japonaise, Monsieur Miyazaki.
Mais est-ce que vous vous souvenez du premier Miyazaki que vous avez regardé?
Oui, moi, c'était, ça devait être Sherlock Holmes, moi, la série Sherlock Holmes dans les années 80.
J'ai dit la même chose.
Sur laquelle il a bossé, ouais.
Parce que ce qui revient très souvent, c'est le voyage de Chihiro, qui est une réponse qui est assez commune. Moi, honnêtement, je ne les ai pas découverts enfants, les Miyazaki, mais je les ai découverts adultes, et c'était un véritable bonheur. Parce qu'on plonge dans un monde qui est plein de poésie, et c'était la possibilité de découvrir ce monde qui est enchanté, du monde du Miyazaki, et que j'adore, avec la musique qui est formidable, avec évidemment plein de choses. Et je vais vous parler juste un peu après de cette adaptation aux éditions Glénat, qui est hyper sympa à retrouver, finalement, des Miyazaki, mais en livre, et qu'on peut parcourir avec les vraies planches des films de Miyazaki, ici, dans un livre. Il y a plein de films qui ont été adaptés ici sous ce format, et je vais vous parler plus précisément de celui qui est en train de feuilleter Alexandre, qui s'appelle Le Château dans le Ciel, qui est moi un de mes préférés. Mon préféré, c'est Porco Rosso, parce que j'adore cet engagement, le côté politique, etc., qui est hyper chouette à retrouver. Mais ici, Château dans le Ciel, ça doit être un des plus poétiques qui existe. Et je vais parler de plusieurs points, mais ici, pour raconter l'histoire du Château dans le Ciel, c'est l'histoire de Chita, qui est une jeune fille qui est dans une sorte de forteresse volante au tout début, et qui se fait attaquer par une bande de pirates, qui est la bande de Dora. Et elle essaye de s'enfuir parce qu'elle a sur elle une pierre qui se transmet de génération en génération dans sa famille, qui est la pierre volante. Et elle n'a aucune information sur cette pierre, elle ne sait pas d'où elle vient, mais c'est juste que sa mère lui a donné, la mère de sa mère lui a donné, etc. C'est vraiment une transmission qui est importante dans cette famille, et elle va essayer de s'enfuir pour essayer de survivre et échapper aux pirates qui veulent absolument cette pierre volante. Elle saute de la forteresse volante et la miracle, elle est en suspension, elle ne chute pas, mais elle vole jusqu'à atterrir dans une espèce de village de miniers où elle tombe au creux d'une mine. Sauf que pour la recueillir, il n'y a pas un sol dur de la mine, mais il y a juste deux bras d'un petit garçon qui s'appelle Pazu. Et c'est ce petit garçon qu'on voit ici qui travaille à la mine et qui est absolument formidable parce qu'il ne lui demande pas d'où elle vient, il ne lui demande pas de compte, il lui dit juste « Viens chez moi, j'ai des habits à te prêter, je vais te nourrir et je vais m'occuper de toi. » Justement, n'y voit rien de... voilà.
Excusez-moi, parce que... moi je ferais ça aujourd'hui, je serais déjà au poste. Hein.
Parce que tu n'es pas un petit garçon. la beauté justement de Miyazaki, c'est cette poésie de ne rien attendre en retour. Et je trouve ça absolument formidable d'avoir ça, mais... Mais ce qui est génial, c'est que, en fait, Miyazaki, alors, au-delà de la poésie, en fait, qui est la poésie de tous les instants, c'est la poésie d'un regard, c'est la poésie d'un sourire, c'est une poignée de main qui est échangée, c'est un service qui est rendu. Au-delà, évidemment, de l'univers graphique, c'est surtout la place de la nature et la place des femmes. Moi, qui m'intéresse énormément dans cette œuvre-là, parce que depuis le début, c'est assez impressionnant. Le studio Ghibli, je crois qu'il est ouvert en 1985, si je ne dis pas de bêtises, et aujourd'hui, Hayao Miyazaki a 85 ans. Et donc c'est quelque chose qui continue et on en regarde toujours aujourd'hui des Miyazaki avec évidemment l'autre Isao Takahaka, son collaborateur sur le studio Ghibli, avec notamment le Tombeau des Lucioles, vraiment absolument formidable à regarder.
On dit que c'est un peu Disney, le Walt Disney japonais.
C'est ça, et moi je le place même au-dessus, mais parce qu'il y a une vraie poésie des instants que j'adore et la place de la nature qui est mise ici dans tous les Miyazaki, par exemple, je sais pas, Nausicaa ou la Vallée du Vent ou alors Princesse Mononoke, c'est la nature qui reprend le dessus. Par rapport au pouvoir des hommes, par rapport à la méchanceté des hommes, c'est toujours la nature qui va avoir le dernier mot et la terre qui a le dernier mot. Et mon dernier mot à moi, ça sera sur le pouvoir des femmes aussi dans ces œuvres-là. Parce que c'est aussi cette force chez Miyazaki et au studio Ghibli de ne jamais sexualiser les femmes. Et moi, je trouve que c'est un travail qui est formidable qui a été fait. Parce qu'il n'y a pas une seule fois où la femme elle est en position d'objet ou elle est en position de soumission dans cette œuvre-là. C'est toujours soit des jeunes filles qui sont hyper courageuses, qui viennent se sauver elles-mêmes de situations qui sont majoritairement quand même assez dangereuses. Et évidemment, des femmes, ici on voit par exemple Dora, qui est la chef des pirates et qui est une femme qui est hyper drôle et qui mène à la baguette cette troupe de pirates qui lui obéit mais au doigt et à l'œil. Et je trouve ça formidable d'avoir ces figures-là féminines qui sont des femmes fortes, qui sont courageuses, qui sont des chefs, qui sont des pirates, qui sont... voilà, c'est un univers qui est magnifique à découvrir. Et je vous conseille vraiment cette collection-là chez Glénat, qui est donc ces planches qu'on retrouve, les planches des films d'animation du studio Ghibli.
Un petit peu, parce qu'on télé, voilà.
Tadam. Et donc on peut découvrir le temps d'un trajet en train, en métro, etc. On peut se replonger dans un Ghibli sans forcément prendre un écran, mais avec ici ce livre-là. Donc je conseille Le Château dans le Ciel, mais bien sûr tous les autres qui sont formidables.
Et il y a plein de grands créateurs qui ont été formés avec Ghibli, bien sûr, avec Miyazaki. Je pense aux créateurs de notamment d'Evangélion, qui a été formé avec lui et qui a donné un des très très grands dessins animés du début des années 2000, qui d'ailleurs va ressortir cette année dans un coffret de luxe que je vous conseille de voir, qui s'appelle Nadia, le secret de l'eau bleue, et qui est un très 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 beau dessin animé, et qui, à mon avis, comme beaucoup de l'œuvre de Miyazaki, ont dû inspirer beaucoup les films Disney, parce que parfois il y a eu des questions quand même de gros plagiat dans les années 90 entre les univers. Nadia a été vraiment bien, bien piquée dans la planète au trésor de Disney, vous verrez, si vous y allez, ça y ressemble beaucoup. Merci beaucoup, Lola.
Avec plaisir.
Pour cet petit aperçu de cet univers de Miyazaki, ça change des autres livres que tu nous as présentés, mais c'est ça aussi la richesse de ce qu'on essaie de vous présenter chaque semaine avec Lola, de pénétrer dans tous ces univers. Voilà. Dites-nous s'il y a des formats, des sujets que Lola n'a pas traités, que vous avez envie que...
Ah, mais alors là, avec plaisir, dites-nous.
Lancez-lui même des défis, tiens. Venez nous en parler sur la page, les comptes du club sur VL. On se fera un plaisir de lui demander de relever les défis. Voilà, comme par exemple lire le livre d'Arnaud Magnier, mais ça, c'est encore autre chose.
Si, alors tu crois pas si tu viens dire, mais bon, je ne dirai rien.
Non, pardon, on se le garde pour plus tard. Non, je évidemment, n'hésitez pas à lancer les défis. Dans un instant, c'est justement Arnaud qui va être avec nous parce qu'on va présenter le Solitube. Et là... C'est du lourd cette semaine encore. Restez avec nous. C'est du très très lourd avec Arnaud. On va parler aussi d'un grand magazine de télévision, le Télé 7 jours. Et c'est une iconique. Mais auparavant, la séquence du téléspectateur que j'ai voulu maintenir. Et j'ai fait une petite entorse. Mais cette fois-ci, ce sera une chanson. Mais une chanson que moi, j'ai beaucoup aimée dans les années 80. Une chanteuse qui, malheureusement, a été la chanteuse d'un seul tube qui était signée par un grand nom de la chanson française. D'ailleurs, ça se reconnaît quand on l'écoute. Ce grand nom s'appelait François Feldman, si vous vous souvenez des valses de Vienne, de Joupa ou de tous ces titres-là, eh bien, il a écrit un jour une chanson pour une chanteuse. Elle s'appelait Caroline Legrand. On est dans les années 80, 1987 de mémoire. J'aurais voulu te dire, quand on l'écoute, si on connaît François Feldman, on reconnaît un petit peu. Voici l'un des passages télé de Caroline Legrand avec sa chanson « J'aurais voulu te dire ».
J'aurais voulu te dire les signaux dans la nuit. Les envies, je me cache pour écouter la pluie. J'aurais voulu te dire mes rêves à venir, mais t'as voulu partir, alors je les déchire. J'aurais voulu te dire le parfum qui me touche, les secrets de mon âme. J'aurais voulu te dire à ton premier sourire mes plus violents délires, le goût de mes désirs. Et les tomes, je t'aime.
Les valses deviennent. J'adore cette chanson. Ouais. On reconnaît
la patte. Ouais.
La patte de François Feldman. Voilà, Caroline Legrand avec J'aurais voulu te dire 1987. Arnaud.
Oui.
Elle aurait pu faire la une de Télé 7 jours finalement.
Caroline
Legrand.
Ah bah oui.
Oh merci.
Lola aussi. Mais...
Lola aussi. Elle rentrait pas dans le cadre. C'était trop petit.
J'ai eu peur.
Mais non, bah, ça c'est plutôt pour moi. Alors, Caroline Legrand, Télé 7 jours.
Oui.
Un programme télé emblématique évidemment.
Absolument.
Qui a sorti d'ailleurs une belle rétrospective l'année dernière, il y a deux ans. Un beau livre qui retrace évidemment les coulisses de la télévision par l'intermédiaire de une de Télé 7 jours.
Voilà, par Marc Dufaux, qui est donc Marc Dufaux qu'on connaît. Et puis la préface de Jérôme Parer, si je ne dis pas de bêtises, qui était donc un des grands collaborateurs de Télé 7 jours. Et bah, je me suis dit que ce serait peut-être la bonne occasion d'en parler, puisque là, depuis le 1er janvier 2026, Télé 7 jours a été racheté, figurez-vous, par un groupe allemand. Et ça a créé quelques remous comme ça, parce que forcément, c'est tout un pan de notre histoire qui est un peu remise en cause. Et beaucoup de gens ont démissionné aussi suite à ce rachat, en ne voulant pas rester dans ce magazine. Donc effectivement, ce livre est superbe. Je ne vais pas prendre le travail de Lola, mais voilà, achetez-le, regardez-le, il y a plein d'illustrations, de photos d'époque, d'anecdotes, enfin, c'est très 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 riche. Et je voulais, en hommage à la venue d'Erwan Levexier, montrer un petit peu aussi ce côté collectionneur qu'a Télé 7 jours, et reprendre cette aventure qui a donc dépassé les 80 ans, puisqu'il a été créé en 1944. Et à l'époque, ça s'appelait Radio 44, parce qu'il n'y avait pas encore vraiment de téléviseur répandu dans toute la France. Et petit à petit, ben, donc ça donnait les programmes de la radio, tout bêtement. Et petit à petit, avec l'émergence des premières chaînes et de la libération, la fin de la guerre, ça a pris forme. Et en 1949, c'est devenu Radio Télé 49, donc on a associé le mot télé. Et petit à petit, ça a pris son envol. Et c'est à partir de 1960, vraiment, où il y a eu le rachat par un grand groupe. Et Jean Divault, qui était donc le premier directeur avec Pierre Salabert, qui ont repensé la maquette et remis en place l'idée de télé et de set et de jour, et ben c'est devenu un peu ce qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui.
Et donc, tout faisait la une de Télé 7 jours, mais en même temps, alors, c'était un signe quand même de popularité.
Ah bah, évidemment,
de faire la une de Télé 7 jours. On l'a vu, un dessin animé avant faisait la une de Télé 7 jours.
Enfin, c'est ça, mais ouais. oui, bien sûr. Et puis au départ, ils avaient voulu l'appeler télé quelque chose avec l'année en cours, donc ils se sont dit, bon, ça va. C'est un petit peu compliqué de changer de nom chaque année. Donc à partir de 60, voilà, c'est devenu le Télé 7 jours. Ils ont gardé que ce signe-là. Et puis effectivement, c'est passé d'un tirage de 60 000 exemplaires à 300 000. Et puis l'année d'après, 500 000. Et ça a très vite atteint le million en 1963, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc c'est bien évidemment avec l'émergence des téléviseurs et la démocratisation des chaînes et des programmes, bah, on a eu toutes ces belles unes qui nous ont fait rêver, parce que bah, on achetait essentiellement, enfin c'est la première chose qu'on voit quand on passe dans les libraires, chez les libraires et les marchands de journaux, et on voyait ça. Donc là, voilà, j'ai voulu mettre tout cela en avant avec des très très jolies unes.
C'est Drôle de Dame, par exemple.
Les Drôles de Dame, absolument. Mmh. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, bah oui, voilà, c'est il y a eu quand même des rédacteurs en chef prestigieux dans Télé 7 jours, comme notamment Étienne Moujotte, qui était donc le patron par la suite de TF1, et lui il était à Télé 7 jours de 84 à 87. On a eu aussi Patrick Mahé.
Ouais.
Jusqu'en 96.
Grande figure
de Télé 7 jours. De Télé 7 jours, voilà. Et évidemment aussi Thierry Moreau, qui était un des chroniqueurs notamment de TPMP avec Cyril Hanouna. Voilà, qui est peut-être pas moins glorieux à dire, mais bon, en fait, il y a eu cette touche comme ça, Télé 7 jours, qui. C'est toujours.
C'est dingue quand même d'imaginer, pardon, mais.
Vas-y, oui.
Dr. Snuggle, qui était un dessin animé qui était quand même un peu obscur et tout, que nous on se souvient de notre époque, mais de dire qu'il a fait la une de Télé 7 jours, quoi.
Il y a eu comme ça de la une. Tu en avais devant toi, il y a Ulysse 31, il y a eu Il était une fois à l'espace.
Hein. Moi, on m'a court-circuité mes trucs. C'est-à-dire qu'on s'est dit, lui, il va me les piquer.
Non, mais tu peux les prendre. Voilà, j'en ai quelques-unes devant moi aussi, mais elles vont passer. Donc, il y avait évidemment Amicalement Vôtre. Et c'était ce côté populaire, mais également culturel, parce que Télé 7 jours se voulait aussi critique et analytique, et ça reprenait vraiment toute l'ambiance des chaînes, mais aussi des personnes qu'on pouvait voir à l'intérieur. Donc il y avait des jolis reportages, parfois chez les gens, parfois chez les acteurs, parfois en avant-première pour Télé 7 jours, qui s'associaient à beaucoup, 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 beaucoup de choses. Donc effectivement, tu parlais de couverture célèbre. Je voulais vous faire un petit jeu. D'après vous, quelles ont été les personnalités les plus représentées sur les couvertures, personnalité ou événement?
Moi, je pense qu'il y a Johnny, à mon avis. Oui,
alors, Johnny, effectivement, 38 couvertures.
Michel Drucker?
Michel Drucker, oui. Alors, Michel Drucker, 25 couvertures.
Seulement?
Seulement, ouais, ouais.
Il n'y a pas eu Dorothée, Dorothée.
Alors, il y a eu Dorothée, évidemment. Alors, bon, je vous les donne, hein, parce que voilà, il y a.
Chantal Goya,
moins que ça, bizarrement, mais Dorothée, oui, effectivement.
Patrick Sabatier,
non, pas tant que ça non plus.
Sébastien.
Patrick Sébastien, non plus. Oui, non. Comme quoi. Hein.
Denis Fabre,
non, ben non, les stickerines, on les a pas trop mis à l'honneur. Et puis il y a un grand absent, en tout cas, qu'on embrasse, c'est Claude Pierrat, qui n'a jamais fait la couverture. C'est quand même fou de se dire que Claude Pierrat, avec toute la carrière qu'il a eu. Ouais, c'est surprenant. Et lui-même, Claude Pierrat, qui collectionnait les Télé 7 jours, il les avait presque tous. sachant que la première couverture, c'était Marie-Josée Natt, qui est donc mise en avant. Alors, je vous donne le... J'ai ma petite anti-sèche. Hein. Jennifer, la chanteuse, 45 couvertures. Ah, c'est elle qui a... Et ouais, parce que tout simplement, avec l'émergence des radios crochets et des Star Academy, c'est ce qui a fait la Star Academy 3-4, toutes saisons confondues, totalise...
Des photos, là. Hein,
c'est oui,
non, non, là...
Ça n'est pas elle, là.
Totalise 42 couvertures pour la Starac. Alors après, bon, allez, je vous donne le top 10. C'est Johnny Hallyday, 38. Nolwenn Leroy, 33, Michel Drucker, effectivement, 25. Jacques Martin, tu n'y as pas pensé alors.
Mais ouais, purée, je m'en veux.
18. Mireille Mathieu, 17. Dorothée, Patrick Poivre d'Arvor et Christophe de Chavannes, ex-aequo, avec 14 couvertures. Laurence Ferrari, Bruno Mazur, 12 couvertures. Mylène Farmer, 11. Grégory Lemarchal, 9. Pardon. Et voilà, donc ça a donné, effectivement, c'est un magazine qui s'achète non pas pour montrer qu'on lit telle ou telle revue, mais pour accompagner toute la semaine. Et ça a accompagné des millions de Français, vraiment.
Alors, ce qui était génial, c'est que moi, quand je le lisais, je l'ai lu, honnêtement, je l'ai bouffé pendant des années quand j'étais gamin. C'était mon programme télé chez moi ou chez mes grands-parents. Ouais. Et c'est vrai que quand je partais en vacances, souvent quand on partait en vacances, il n'y avait pas de télévision dans les locations. Et donc, le seul moment de se raccorder à la télévision, c'était de lire les programmes télé. Donc, c'était la une, c'était terrible parce que mes grands-parents partaient acheter le programme télé 7 jours le lundi quand ça sortait. Et je me battais pour l'avoir parce qu'ils se précipitaient pour le lire. Et moi, j'adorais parce qu'à l'intérieur, c'était très détaillé. Aujourd'hui, c'est très compilé les uns à la suite des autres. Mais à l'époque, on avait l'épisode de série, on savait lequel c'était, on savait que c'était le dernier épisode, c'était le truc. Tu savais ce qui s'y passait, il y avait des résumés, bref, c'était génial, quoi.
Et on attribuait des 7, donc il y avait les 7 d'or, oui. Hein, qui étaient reliés aussi, on attribuait les 7 d'or, donc c'est-à-dire les récompenses du public et de la profession pour certaines œuvres.
Et puis il y avait les 7, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle beaucoup des T de Télérama, mais quand vous aviez 3 7 à l'intérieur, vous saviez que c'était un super programme à pas rater, quoi.
Ouais, absolument. Et donc il y avait plein de choses. Ça nous donnait aussi la date de la diffusion précédente pour savoir depuis combien de temps on n'avait pas vu à la télé. Il y a beaucoup, beaucoup de choses.
Et il y avait ce truc aussi, tu dois t'en souvenir, mais quand on regardait un film ou une série, si vous avez manqué le début.
C'est ça,
c'était génial. Vous aviez le résumé du début du truc au cas où vous le ratiez, quoi.
Voilà, il y avait les caricatures aussi qui étaient très, très prisées. Moi, quand j'étais petit, je les découpais, puis j'avais un cahier comme ça où j'avais Daniel Gilbert et toutes ces caricatures qui me faisaient marrer.
Qui n'est encore une fois pas à l'image.
Et
pas elle qui est là. Hein. C'est le show toujours.
Non, absolument pas. Et donc voilà, je voulais rectifier ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai écorché son nom, pardon. Jérémy Parer, voilà, qui a donc démissionné il y a peu de temps, en février. Il a déclaré depuis le rachat que c'en était assez pour lui.
Belle,
il a vécu 15-16 ans aux côtés de Télé 7 jours et a porté sa patte. Voilà, donc un magazine qu'on aime, hein, qui a encore aujourd'hui un tirage à peu près dans les 600 000 exemplaires, ce qui est pas mal parce qu'avec l'arrivée de la TNT, du câble et puis aussi des magazines gratuits qu'on pouvait avoir dans les métro, etc., ça fait mal, hein, forcément.
Et des magazines qui cumulent 15 jours,
oui.
Telles les deux semaines, des choses comme ça, qui se sont développées ces dernières années. Voilà, donc ça a été important. Et puis surtout le fait qu'aujourd'hui, voilà, chacun se fait sa propre programmation télé et n'a plus besoin des programmes télé. Pour vous dire, là, c'est Lindsay Wagner,
oui.
De Super Jamie.
Super Jamie,
quand même.
Voilà. Donc,
femme bio-ionique.
Je voulais vous apporter tout ça, parce que ça fait du bien de les voir. Voilà, les barbes à papa, les...
On a vu tout à l'heure.
Et puis, il y avait toujours les petites pubs derrière avec des choses... Voilà, bon. C'est vraiment, pour moi, le magazine de coup de cœur.
Gros coup de cœur, moi aussi.
S'ils cherchent quelqu'un pour la nouvelle...
Version, on est là.
On s'appelle, voilà.
Vous nous appelez, on sera très contents de s'en occuper. Alors, nous, en rédac chef, et puis voilà, moi, je collaborerai modestement avec lui.
Et je fais un petit coucou à François Divot, qui est toujours le fils de Jean Divot, que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois et d'interviewer pour notamment l'aventure avec Christophe Izard, parce qu'il avait une rue qui s'appelait Bazoum dans Les Visiteurs du Mercredi. Et il y avait aussi donc les déclinaisons de Télé 7 jours, Télé 7 jeux, et les animaux sauvages aussi. Donc il y avait des doubles pages comme ça, des sortes de posters. Tout était fait pour nous instruire déjà, et puis pour faire en sorte de nous fidéliser pour venir la semaine prochaine.
Merci beaucoup Arnaud de nous avoir replongé dans ce Télé 7 jours. On aura, j'espère, peut-être l'occasion de vous remontrer à des couvertures dans les prochains mois. Il nous reste quelques minutes dans cette émission, le temps de finir comme on le fait d'habitude en musique avec le Solitube. Voici le jingle. Cher Erwan, si tu ne connais pas le Solitube, c'est la réhabilitation parfois contraints et forcés de tubes qui étaient dans les annales et qui, si on se demande pourquoi ils y sont allés, et parfois on se demande pas pourquoi ils y sont allés. Chaque semaine, je dis, tu nous as dégoté du lourd. Mmh. Et chaque semaine, je me dis, il va pas pouvoir faire plus fort.
Bah oui, parce que bon, dans ma besace, j'en ai encore. Oui, j'en ai encore pas mal. Et donc, bah là, je vous ai retrouvé Chiloum Cacahuet. Voilà.
Ah. avec une chanson, objectivement, qu'on ne ferait plus aujourd'hui.
Non mais Lola, alors tu vas adorer, toi qui aimes bien les trucs, les choses entêtantes, ça va te suivre toute la semaine, là, j'en suis certain.
Par contre, dites-vous bien que c'est une autre époque, je le précise parce que quand même, on ne le ferait plus aujourd'hui, ça c'est sûr, c'est impossible. On en parle après.
On en reparle après, évidemment. Allez. J'ai plein de choses à vous dire.
Regardez, c'est tellement bien. Plume de poule vient. Rien que ça, c'est un vrai exercice de diction quand même.
Ben oui, alors pour vous aider à bien garder tout ça en tête, je vous ai fait...
On a un petit truc, je crois qu'on a le...
Alors, on va alors, la pochette du 45 tours, mais j'ai plein de choses à vous dire, vous allez voir que vous moquez comme ça, mais...
On se moque.
On
essaie de récupérer pour le moment.
Oui, c'est ça.
Alors on va la remettre.
Plume de poule, plume de poule.
On va voir apparaître la pochette.
Alors voilà la pochette. Voilà.
Donc il n'y a plus le monsieur sur la
pochette. Non, mais c'est plume de poule qu'on voit, quoi. Et Chiloum Cacaoué, elle est ou pas qu'on voyait danser derrière, parce qu'après il y a toute une chorégraphie. La face B est en instrumental. Si vraiment vous voulez un jour faire un karaoké, je peux vous fournir aussi la 1 et 1. Voilà, alors, mais.
Alors attends, voyons voir le premier visuel. Le prochain visuel, ça c'est pour Lola.
Oui, c'est
alors,
pour
Lola. Alors, on va le voir. T'es prête?
Non, c'est
alors, regarde Lola. T'es prête? Attends, 3, 2, ça va apparaître, vous inquiétez pas. Voilà, alors, là. Plume de poule, plume de poule, viens, viens. Plume de poule, viens. Depuis que toi es parti,
moi est plus bon à rien.
Putain, c'est
moi regarder TV ni feuilleton au quotidien. Moi plus regarder. Alors voilà.
Ça se vend.
Alors ça s'est vendu raisonnablement, mais alors c'est connu au Japon quand même. Il faut dire ce qui est. Et qui est derrière cette chanson? C'est un monsieur qui s'appelle Patrick James. James James. Et ce monsieur a énormément contribué à la chanson française. Il a notamment travaillé avec Carlos. Et il a fait la chanson. Alors bon, c'est des chansons populaires comme ça, mais qu'on aime. Il a fait l'amour ça rend beau lélé.
L'amour ça rend beau lélé, ça rend beau lélé.
Ça rend les beaux.
Ouais, voilà, très bien.
Voilà, vous connaissez forcément. Il a travaillé avec la bande à Basile et André Verschuren. Ils ont fait ce soir. On va faire la Java.
La fête est là.
Ça on connaît. Oui.
Mais oui, vous connaissez forcément. Il a fait aussi des choses plus sérieuses avec Julie Pietri, notamment qui a pour le titre Tora Tora Tora.
Ah oui.
Voilà. Et
je chante pas là.
Il y a pas de jeu de mots à faire avec non plus. Mais ce monsieur, voilà, c'est une pointure vraiment dans son actif. C'est un auteur.
Enfin, il est un peu à l'étroit dans les chaussures quand même, pardon.
Alors, il est petit. Mais il a quand même récolté, tenez-vous bien, 3 disques de platine, 4 disques d'or et 5 disques d'argent comme auteur et 3 disques d'or comme artiste. Donc voilà, pas n'importe qui. Et forcément, vous le connaissez. Alors, je vais terminer en apothéose. Il a créé une chanson qu'on connaît tous si un jour on est allé déjeuner dans ce restaurant, qui est donc typiquement liée à des Indiens aussi. C'est la chanson des petits Indiens. Vous savez, quand vous avez votre anniversaire, là, bon anniversaire, les petits Indiens, Buffalo Grill.
Attends.
C'est lui.
Ah, putain.
C'est lui aussi. Voilà, c'est lui aussi. Donc, moi, je dis... Plume de poule aux petits Indiens, respect de 1977 à 2005 où il a sorti les petits Indiens.
Plume de poule, viens.
On pourrait peut-être le réécouter encore un petit peu.
Non, plume de poule.
De toute façon, on l'a en tête.
Il y a un petit côté un peu comme un bonnet M et tout, tu vois. Je suis sûr que c'est pas lui qui chante en fait.
Si, c'est lui, mais
Vanni Vanilli là, c'est pas lui.
Et non, mais il y a des clins d'œil à Ennio Morricone, on entend touloulouloulou, enfin là, de
dedans.
Non, mais c'est. Non, mais si vous la réécoutez plusieurs fois, on pourrait peut-être. Non, bon.
Non, j'insiste. Plusieurs fois.
Il y a une chose intéressante, c'est qu'il est fait allusion à Bison Futé. Et ça, ça n'a pas vieilli, il y a toujours Bison Futé.
Il y a toujours Bison Futé, malheureusement. Mais par contre, il n'y a plus Plume de Poule.
Non.
Mais on ne sait pas ce qu'elle est devenue, mais elle était bien jolie aussi dans cet extrait.
Oui, elle était bien jolie.
On l'embrasse.
Ça s'appelait donc Chiloum Cacaoué, et pas Cacahuète. Et les oupas.
Alors, cacaoué, qu'est-ce que c'est? C'est une liqueur, donc alcoolisée. Et Chiloum Ça sera le mot de la fin, je vous laisse méditer là-dessus, c'est une pipe indienne.
Voilà. Voilà, il fallait bien finir là-dessus. Très
bien, merci.
Erwan, je ne sais pas comment faire pour passer à toi, mais je repasse à toi quand même.
Si, hein.
On est parti avec Arnaud sur une 25e planète, mais on revient sur la 10e avec toi, qui revient en ligne. 10e planète, le magazine culte. Voilà, de toute une génération. Oui. Pour cette
abonnez-vous,
qui
abonnez-vous.
Ont suivi, oui. Le merchandising. Allez-y, 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 à ne pas manquer. Et on était ravis que tu viennes passer cette petite heure avec
nous. C'était vraiment un
bon
moment.
On s'est éclaté. On s'est éclaté. Merci Malola aussi.
Merci.
Pour ce moment sérieux. Et merci Plume de Poule. Viens, Plume de Poule. On se retrouve nous la semaine prochaine pour un nouveau numéro, j'espère, du club en votre compagnie. Merci à notre cher réalisateur qui était avec nous cette semaine pour la première fois qu'on applaudit. On se retrouve nous très très vite pour un nouveau numéro. Les portes du club se referment. Passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et on se retrouve bientôt le mercredi sur VL. Merci les copains.
Salut.
Merci Erwan. À très vite.
Salut.